Radio Kapi.
Le journal Lévin Mwinga à la présentation.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité de ce lundi, c'est effectif la situation de guerre dans la partie est de la RDC, inscrite à la 11e réunion consultative de l'ACCA, une performance signée Jean-Michel Samalou Kondé. Le président du Sénat congolais vient de participer à ses assises tenues à Malabo en Guinée équatoriale et regroupe les Sénats de l'Afrique et du monde. Dungu et sa population dans le désarroi, ce territoire du Haut-Ouélé est confronté à la hausse des prix des denrées alimentaires. À la base, plusieurs bourbiers sur le tronçon entre Dungu et Faradje qui affectent sérieusement le trafic, expliquent les opérateurs économiques. Nous allons enfin nous attarder sur la journée internationale à l'accès universel à l'information célébrée samedi 28 septembre dernier. Thème retenu, impact du nouveau cadre légal sur la liberté de la presse et l'écosystème de l'information en RDC. Patient Ligodi, journaliste professionnel et auteur du livre « Cadre légal des médias en RDC » va nous parler de cet ouvrage. Il est notre invité. Je le disais à l'instant, Jean-Michel Samalou Kondé, président du Sénat congolais, réussit l'inscription de la situation de guerre dans la partie est de la RDC parmi les résolutions de la 11e réunion consultative de la CCA, Association des Sénats, Chora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Les travaux de ces assises se sont tenus à Malabo, en Guinée équatoriale, du 26 au 27 septembre dernier, sous le thème « Renforcer l'action parlementaire conjointe des pays du Sud pour relever les défis environnementaux, technologiques et de développement ». Billy Ivan Lutumba nous en dit plus.
Jean-Michel Samalou Kondé, qui s'y est fait accompagner d'une délégation du Sénat, affirme qu'au-delà de ce thème, pour la RDC, il est important de penser avant tout à la paix et à la sécurité. C'est ainsi qu'il s'est engagé dans le cadre de la diplomatie parlementaire menée aux côtés du président de la République à obtenir le soutien des pays membres de la CECA pour que cela soit repris dans les résolutions qui devraient découler de cette assemblée.
Pour nous, c'est d'abord la question de la paix et de la sécurité où tous ceux dans quoi nous sommes engagés, nous souhaitions avoir le soutien des pays membres de la CECA. Cela soit repris dans les résolutions qui devaient découler au fait de cette assemblée. Résolutions qui ont été prises en compte dans le cadre, en tout cas, de défendre les questions de paix et de la sécurité.
Ce pari gagné pour les sénateurs de la RDC, c'est ainsi qu'ils se sont ensuite ouverts sous les potentialités, actions et attentes de la RDC en matière d'environnement et de l'intelligence artificielle.
Sur les questions environnementales, nous attendons des mesures d'accompagnement et de compensation. Parce que nous contribuons et nos populations qui préservent ces forêts doivent être compensées.
Signalons par ailleurs que la CECA, Association des Sénats, Chora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, poursuit entre autres comme objectif l'appui au bicamérisme parlementaire et le développement de la coopération dans les domaines économiques, politiques et culturels entre les peuples qu'elle représente.
Justice, troisième jour à la prison centrale de Makala ce lundi pour l'opposant Seth Kikuni, le président du parti politique Piste pour l'émergence et ancien candidat président de la République, y est détenu depuis samedi 28 septembre. Son transfert des locaux de l'ANER vers cette prison est confirmé à Radio Kapi par son parti politique et sa famille. L'ancien candidat à la présidentielle de 2018 avait comparu vendredi 13 septembre dans la soirée devant le parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il a été auditionné en présence de ses avocats. D'après son chargé de communication, Gabriel Moussafiri, il fait l'objet d'accusations concernant plusieurs actes contraires à l'autorité de l'État, notamment la propagation de faux bruits et l'incitation à la désobéissance civile. Dungu, dans la province du Haut-Ouélé, confronté à la hausse des prix des denrées alimentaires et produits de première nécessité depuis quelques jours, cause principale, la présence de plus de 7 bourbiers sur le tronçon entre Dungu et Faradje qui affecte sérieusement le trafic sur cet axe routier, indiquent les opérateurs économiques de la région. Du coup, tous les produits manufacturés en provenance de l'Ouganda n'arrivent plus au marché. Cette situation affecte le porte-monnaie de la population. La société civile hausse le ton et invite les autorités provinciales à réhabiliter cette route. On écoute Justin Bélépaille dans ses propos choisis par Ezekiel Mouzalia.
Il y a 4 jours, aucun camion n'arrive dans la cité de Dungu, simplement parce que entre Dungu et Faradje, Il y a 7 grands bourbiers qui ont rendu le trafic impossible. Ça a répercuté sur nous, la population, au travers le prix de denrées. Il y a 4 jours ou 5 qu'un sachet de sel de table s'est négocié sur le marché à 600 francs. Mais aujourd'hui, ce matin, nous nous sommes réveillés, ça coûte 2000 francs congolais. Le bar de savon qui coûtait normalement 4000 se vend aujourd'hui à 9000 francs congolais. Et nous, comme acteurs de la société civile, avons préféré de rehausser les tons pour signifier au monde et surtout à nos autorités qu'il y a un problème d'urgence dans le territoire de Dungu. Nous demandons à nos autorités de se hâter, de pouvoir décanter la situation.
De la province du Haut-Uele, passons à la Tchopo qui présente presque le même tableau. C'est la dégradation de la nationale numéro 4, tant décriée par la population. Et là aussi, comme il fallait s'y attendre, cette situation engendre des conséquences sur divers plans, notamment socio-économiques. En tout cas, le blocage des véhicules pendant plusieurs jours sur cette route occasionne l'avarie des cargaisons, entraînant ainsi une perte énorme pour leurs propriétaires. Reportage signé Jacques Moukonkolé.
Parmi les centaines de camions qui font le trafic sur la RN4, on compte notamment ceux qui sont chargés de marchandises diverses, dont des produits alimentaires, en l'occurrence des haricots, des oignons et d'ail. Ces denrées alimentaires subissent l'avarie après plusieurs semaines sur la route. Témoignage d'un jeune conducteur de véhicule.
Je viens de totaliser 2 semaines et 3 jours depuis que j'ai quitté Boutembo. Ici où vous m'avez trouvé, je viens de passer 4 jours. Nous avons transporté des oignons et des pommes de terre, au total 17 tonnes, tout est pourri. Nous savons plus comment nous allons vivre.
Sur le marché de Kisangani, quelques sacs sont récupérés après triage sur fond des odeurs nauséabondes pendant le déchargement. À cause de pertes subies et au vu des souffrances endurées sur la route, les prix des produits galopent. Cette marchande ne cache pas ses regrets.
La route est en très mauvais état. On achetait 1 kg d'oignons à 2500, voire 3000. Aujourd'hui, nous en achetons à 8000. Le haricot, on achetait à 1000, 1500 francs. Aujourd'hui, nous en achetons à 2500, voire 3000 francs.
Envie de remédier à cet état des choses, les camionneurs et les femmes marchandes demandent au gouvernement d'accélérer les processus d'asphaltage de la RN4. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Cap.
Bonne nouvelle quand même du côté du Maniema, il y a eu lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 31 samedi 28 septembre dans le territoire de Kailo par le gouverneur de province Moussa Kabouankoubi Moïse, des travaux qui seront exécutés grâce aux fonds issus de la taxe conventionnelle, mais là également ces taxes qui relient la province du Maniema à la province de la Tchopo est dans un état de délabrement très avancé. Les travaux lancés auparavant par l'office des routes sont à l'arrêt pour plusieurs raisons, dont l'état de vétusté du matériel de cette société de l'État. Une situation qui entraîne des conséquences sur le prix du voyage et rend difficile le mouvement des populations. Florence Kizalunga a effectué ce parcours de combattant. Voici son reportage.
Ces manœuvres se font pendant cette saison sèche. Imaginez son état pendant la saison des pluies. L'administrateur du territoire compare les conditions de la route Kailo et explique les calvaires vécus. Amoury Mwendasoko Marcel.
Le lancement officiel de travaux de réhabilitation de la RN31, Muyengo Kailo. Travaux restés inachevés par votre prédécesseur, dont les causes sont multiples. Aujourd'hui, vous vous assumez avec l'effort propre du gouvernement provincial du Maniema pour le désenclavement de cette entité, car cette route est un calvaire pour atteindre Kindu. Le rêve devient aujourd'hui une réalité, d'où c'est la deuxième recommandation lors de votre première visite à Kailo, chose qui marque de mon cœur votre attachement dans mon entité.
Cette thèse est confirmée par les usagers de la route, notamment les motards.
Ah, c'est avec beaucoup de difficultés que nous marchons. Nous souffrons avec des boues, de l'eau sur la route. Quand la saison des pluies va commencer, ça sera compliqué pour nous par rapport aux boues.
L'administrateur plaide pour la présence permanente des cantonniers pour l'entretien des routes une fois réhabilitées. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre problème, cette fois au Kassai oriental, 48 heures seulement après la suspension de la vente du maïs du service national de Kanyamakassese, les femmes ménagères se plaignent de la hausse de prix de cet aliment sur le marché de Mbujima hier dimanche. Une mesurette de maïs qui se vendait à 5 000 se négociait à 7 000 francs congolais. Les femmes ménagères demandent une chose, que le service national puisse réouvrir les dépôts pour poursuivre la vente de son maïs. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au point de vente de maïs situé au marché Benakabinda dans la commune de la Mouya, quelques femmes ont réservé les places avec des pierres et des habits en lambeaux. Elles attendent acheter le maïs du service national ce lundi, mais les doutes planent encore dans les chefs de ces ménagères.
Nous sommes là depuis le matin pour acheter le maïs. On a placé même les pierres pour s'aligner et trouver le maïs. Jusqu'à là, on n'a pas encore ouvert, on a laissé aux enfants. Nous sommes venus pour acheter.
Les femmes ménagères demandent au service national de poursuivre la vente des maïs.
On ouvre quand même les dépôts. C'est depuis le matin que nous sommes là pour acheter pour les enfants les maïs. Jusque-là, on n'a pas encore ouvert. Nous demandons à ce qu'on puisse ouvrir pour que nous puissions acheter un peu pour les enfants. Maïs, on espérait acheter des maïs. Nous demandons qu'on ouvre pour qu'on puisse acheter des maïs.
Toutes nos tentatives pour joindre le commandant des services nationaux se sont avérées vaines. Mais déjà samedi dernier, le représentant de ce service au niveau du Grand Kassai a indiqué que la vente sera reprise que sur instruction du général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Éducation à présent au Kwilu, les enseignants de la province éducationnelle Kwilu 3, soit Idio Fayengungu, décident de maintenir leur mouvement de grève malgré la paie de 50 000 francs congolais observée sur la compte de 100 000 promis par le gouvernement. La décision a été prise lors de l'Assemblée générale tenue samedi 28 septembre à la cité d'Idiofa, chef-lieu du territoire. De ce fait, l'intersyndicale invite les parents d'élèves à garder leurs enfants à la maison. Gilbert Impom est le président de l'intersyndicale des enseignants du Kwilu 3. Il est au micro d'Irène Mboma Luzolo.
Les enseignants de Kwilu 3 réunis, venus de partout, de toutes les écoles, réseaux confondus, les inspecteurs y compris, après que les membres de l'intersyndicale aient exposé les résultats des différents pourparlers obtenus avec les autorités locales, et après que les enseignants se soient flattés pour leur demander de rentrer, unanimement, les enseignants ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève, puisque aucune solution concrète n'a été présentée au regard des préalables qu'on avait posé depuis la date du 31 août 2024. C'est comme ça que l'intersyndicat, devant faire la volonté de sa base, donc de l'Assemblée générale souveraine, n'a pas trouvé une seule argumentation pouvant les convaincre pour devoir reprendre le chemin de l'école. Et étant souveraine primaire, l'intersyndicat n'a fait que prendre acte et communique à travers les enseignants de la province éducationnelle Kwilu 3 Idiofa, Gungu y compris, aux enseignants de continuer à poursuivre leur grève et demande illico aux parents de continuer à garder leurs enfants à la maison jusqu'à nouvel ordre.
Pas de solution non plus du côté du Congo central. Aucun compromis n'a été trouvé au sortir de la séance de travail organisée vendredi par le gouverneur de province, Grace Kwanga Bilolo, avec le banc syndical des enseignants ainsi que les différents dirigeants de trois provinces éducationnelles du Congo central. Le banc syndical des enseignants s'est déclaré incompétent pour prendre une quelconque décision face à la main tendue du gouverneur de province qui leur demande de lever la mesure de grève et de reprendre le chemin de l'école. Détail avec Nana Plurich Mambou.
L'espoir suscité par l'invitation du gouverneur des provinces au banc syndical des enseignants de voir dans quelle mesure lever la grève dans les établissements scolaires publics s'est envolé. Les enseignants du Congo central maintiennent leur mouvement de grève, comme l'affirme Simon Siloulou, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central.
Le banc syndical s'est déclaré incompétent de prendre position par rapport à ce qui leur a été demandé lors de cette invitation. Aucun compromis n'a été trouvé. Le gouvernement n'a pas pris comme priorité la formation de la relève, alors que le devenir intellectuel de la nation en dépend.
En ce qui concerne les revendications des enseignants, Simon Silou nous révèle qu'en dépit de la paye complémentaire de 50 000 francs congolais, les durcissements du ton des enseignants fait suite au budget national déposé à l'Assemblée nationale par la première ministre. Ce budget ne prend pas en compte l'amélioration des conditions salariales des enseignants, telle qu'elle avait instruit les chefs de l'État au 19e Conseil des ministres. C'est ce lundi 30 septembre que la proposition du gouverneur Grace Bilol au banc syndical de la levée des grèves sera portée à l'Assemblée générale des enseignants pour son approbation. Ou non. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À mesure que les bombardements israéliens sur le Liban s'intensifient, la population libanaise fuit. Il serait près d'un million de personnes à avoir été déplacées, selon le premier ministre libanais Najib Mikati. Ceux qui peuvent quitter le pays se jettent sur les quelques vols disponibles à l'aéroport international de Beyrouth.
L'invité.
Impact du nouveau cadre légal sur la liberté de la presse et l'écosystème de l'information en RDC, c'est le thème choisi pour célébrer la Journée internationale à l'accès universel à l'information le samedi 28 septembre 2024. Patient Ligodi, journaliste professionnel et auteur du livre « Cadre légal de médias en RDC », parle de cet ouvrage porté sous les fonts baptismaux par le ministre de la Justice le même jour. Il lance également un message aux journalistes sur la liberté de la presse. Patient Ligodi s'entretient ici avec Étienne Lissoumbo.
Patient Ligodi, bonjour.
Bonjour.
Ouais. Présentez votre livre sur le cadre légal de la presse. Vous pouvez nous dire en gros c'est quoi ces livres?
En fait, c'est un livre qui n'est pas un livre de droit, un livre, comment on dit, juridique. C'est une analyse qui est faite sur l'ordonnance loi du 13 mars 2023, qui est le nouveau texte qui régit l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo.
Quelle a été la motivation de la rédaction de ce manuel?
La motivation est simple, c'est que souvent nous émergeons, nous travaillons dans un contexte que nous ne maîtrisons pas. Très peu d'entre nous connaissent plus ou moins les différents textes qui régissent la profession journalistique ici, en termes de droit, en termes de règlement, en termes de textes de loi et consorts. Donc moi, l'idée, c'est de pouvoir vulgariser au maximum ce que dit la loi sur l'exercice de la liberté de la presse, sur l'accès à l'information, sur l'économie des médias, sur les droits, tout ce qui concerne l'écosystème de l'information, pour que ceux qui pratiquent ce métier de journaliste puissent avoir les clés qui permettront d'aller chercher l'information là où elle se trouve, de pouvoir se protéger de tout ce qui peut avoir comme abus et aussi de pouvoir naviguer aisément dans un contexte mouvant, dans un contexte qui change. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez les médias en ligne qui émergent. Avant, il n'y avait pas un cadre légal qui régissait la pratique de ces métiers-là sur les plateformes numériques. Aujourd'hui, il y a une loi. Aujourd'hui, par exemple, on vous exige, si vous ouvrez un média en ligne en RDC, il faut que votre média en ligne puisse avoir une extension .cd. Quelle est l'implication de pouvoir avoir cette obligation de mettre l'extension .cd pour un site internet d'information? Quels sont les bienfaits? Quels sont, on va dire, les risques? C'est tous ces éléments-là que nous essayons d'analyser dans ce livre.
Qu'attendez-vous de vos lecteurs?
Alors, j'attends une compréhension de l'écosystème, du nouvel écosystème de l'information, qu'ils comprennent quels sont les droits des journalistes, quels sont les devoirs des journalistes, jusqu'où on peut aller avec ces nouveaux cadres légaux. Par exemple, quand on dit que la rétention de l'information publique est criminalisée en RDC. C'est-à-dire qu'un détenteur de l'information publique est obligé de partager des informations à caractère public avec des journalistes professionnels. Ça, par exemple, je veux que les journalistes le sachent, qu'il peut aller à la DGI demander une information à caractère public et l'obtenir. Je veux que la DGI sache qu'elle est obligée de partager l'information à caractère public avec des journalistes professionnels qui viendraient le faire. Et que ça soit systématique, comme c'est dit dans la loi. Je veux que la société congolaise puisse accéder aux connaissances sur cette nouvelle législation et pouvoir améliorer plus ou moins le rapport qu'on a avec l'information. Parce que, pourquoi on demande qu'on ait un meilleur accès à l'information publique? C'est un devoir des journalistes que d'aller chercher. C'est un droit du public que de savoir. C'est donc en bâtissant notre démocratie, nous devons intégrer toutes ces subtilités que nous donne notamment l'exercice de la liberté de la presse. Et l'exercice de la liberté de la presse, c'est basé sur les cadres légaux. C'est ces cadres légaux-là que nous décryptons dans ces bouquins.
Un message à adresser à l'occasion de la journée internationale à l'accès à l'information?
Je crois qu'il y a eu des avancées avec l'ordonnance loi du 13 mars 2023 sur l'accès des journalistes professionnels aux sources publiques et privées d'informations. Maintenant, le grand travail à faire, c'est d'aller sur l'accès universel à l'information, qui ne concerne pas que les journalistes. On a une proposition de loi qui traîne à l'Assemblée nationale depuis 2020, la proposition de loi sur l'accès à l'information publique, qui donne, on va dire, la possibilité à chaque citoyen de pouvoir aller demander, chercher l'information auprès d'une source publique. Cette proposition de loi est encore au niveau de l'Assemblée nationale. Elle n'est pas programmée et le travail à faire, c'est de pouvoir mener un plaidoyer, un lobbying pour programmer cette loi qui sera, on va dire, une avancée majeure dans la quête de l'accès à l'information publique en RDC.
Bastien Ligaudi, merci.
Merci à vous.
Voilà, c'est sur cette ère de la liberté de la presse que nous bouclons ce journal. Merci à Jude Bilanda, à Jacques-Yves Molima et à Jean-Noël Mokondo.